Jacinthe Varelle.
Elle est là, elle est là.
C'est notre préféré du vendredi, c'est Jacinthe Varelle. Pas qu'on n'aime pas Max, pas qu'on n'aime pas... C'est quoi déjà ton nom?
Denis.
Jeff.
Ben, je pensais que t'as dit Denis
pas Jeff.
Qui fait le pizza.
Pas qu'on n'aime pas Denis, mais Jacinthe. Ouais. C'est comme notre rayon de soleil du vendredi matin.
Et voilà!
Ouais, c'est ça, c'est ça.
C'est
comment ça,
ça
va?
Ça va bien.
Ouais, je suis content que tu sois là. T'as-tu passé une belle semaine?
Très belle semaine.
Bon, parle-moi de ça.
Le temps a commencé, ça fait toujours du bien à tout le monde, ça.
Ouais, ouais, effectivement. Hey, ce matin, je parlais d'un sujet, puis j'ai le goût de te greffer une humoriste dans le loop. Parce que, est-ce que tu connais Roxane la Banane?
Ben oui.
J'adore Roxane la Banane. C'est quelqu'un que je trouve vraiment allumé. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que c'est une humoriste, Roxane la Banane? Parce que c'est un personnage qu'elle joue, là.
Ben oui.
Bon. Pourquoi je veux te greffer Roxane la Banane à un sujet qui touche l'actualité? C'est que il y a deux pétitions qui ont été déposées par la députée Jennifer Macaroni, que je ne connais pas. On dit qu'on occulte le mot « femme » au profit de personnes ayant des menstruations. Et là, ça a l'air que ça créerait un inconfort dans les rangs du Parti libéral. À tort ou à raison, là, moi, dans mon cas, moi, une femme, ça peut avoir des menstruations, un homme, non.
Ouais.
Mais je suis peut-être un peu trop vieux jeu. Je m'accepte comme je suis. J'ai appris à vivre avec moi-même. Je pense qu'une personne trans qui est née de sexe féminin puis qui devient un homme tout en conservant ce qu'elle a eu à la naissance du côté féminin peut avoir des menstruations. Mais en bout de ligne, une femme, ça peut avoir des menstruations. Mais là, on dit c'est personne ayant des menstruations pour ne pas froisser personne.
Ben oui.
Et là, il semblerait qu'au Parti libéral, il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça. Je suis pas mal à l'aise, mais je trouve qu'on invente beaucoup de vocabulaire pour tenter de faire pas grand-chose, finalement. On dit que les signataires demandent la gratuité des produits menstruels, comme les tampons et les serviettes hygiéniques, ce avec lesquels je suis entièrement d'accord, dans les écoles du Québec, ce qui turlupine un peu les députés libéraux. C'est vraiment l'utilisation du terme « personne ayant des menstruations » dans le libellé. Pourquoi on essaie de jouer avec le vocabulaire, Jacinthe, selon toi?
C'est une grande question philosophique.
C'est-tu des woke?
Je pense qu'on n'a pas réfléchi longtemps à toute l'utilisation de ces termes-là, puis c'est super polarisant. J'ai jamais compris pourquoi on n'a pas plutôt décidé de garder l'appellation homme-femme et trans ayant une prostate, trans ayant des menstruations.
Ouais, je prendrais même pas la peine de le dire, moi, prostate, ben non, menstruation.
Ouais.
Personne trans.
Oui, absolument. Mais mettons que tu veux absolument rentrer dans le détail anatomique de la chose, ben j'ajouterais trans ayant une prostate et trans ayant des menstruations. Ça serait très clair dans l'esprit de tout le monde. Parce que j'ai un peu un malaise avec même ce que toi, tu viens de dire. Tu as dit quelqu'un qui est né femme et qui est devenu homme. Non, mais tu deviens pas homme. Tu deviens pas femme, Yannick. Moi, je suis pas d'accord avec ça.
Ben, tu peux avoir, non, t'es homme tu peux ou avoir t'es un changement de nom. Tu sais, moi, là, si Max était une femme à naissance, maintenant, il est là, puis je veux pas trop bien ça, moi, que je l'appelle Max, puis que je dise que c'est un homme, même s'il est né de sexe biologique féminin.
Ben, moi, je suis à l'aise avec l'appellation trans. T'es devenu trans.
On est peut-être rendu trop vieux.
Mais non, mais...
Je veux te faire entendre Roxane trans. La Banane. T'es-tu prête?
Oui.
Roxane la Banane est exceptionnelle. Je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux. C'est tout un personnage. Ça va loader dans les prochaines secondes.
Itinérant ou handicapé.
On repasse.
Avez-vous remarqué qu'on dit plus itinérant ou handicapé? On dit maintenant personne en situation d'itinérance ou personne en situation de handicap. On dit plus non plus pauvre, on dit personne en situation de précarité. Savez-vous pourquoi? C'est pas ces gens-là qui ont demandé ça pour eux-mêmes. En fait, c'est un groupe de gens qui souffrent d'une condition particulière qui s'appelle les personnes en situation de besoin de validation de leur vertu. Qui inventent des termes comme ça parce qu'ils sont pas capables de juste dire des mots ordinaires compris par tout le monde. Ils ont besoin de montrer qu'ils sont plus altruistes, plus inclusifs et plus empathiques que le commun des mortels à travers des termes comme ça qui peuvent sembler vraiment caves puis inutiles pour le monde normal, mais ces gens-là qui ont cette condition-là, eux, ça leur fait vraiment du bien. Ils en ont besoin. Fait que maintenant que vous êtes sensibilisés à cette triste condition, vous pouvez quand même les soutenir et les aider en disant « personne en situation de » pour absolument n'importe quoi, pour pas leur faire de peine. Comme par exemple, pour quelqu'un d'anxieux, ben, il faudrait dire « personne en situation d'anxiété ». On dirait plus diabétique non plus, on dirait « personne en situation de diabète ». Personne en situation d'homosexualité. Personne en situation d'allergie saisonnière. Personne.
J'adore.
J'ai tombé là-dessus hier, puis je riais de seul.
Ah ouais, elle fait du sarcasme extraordinaire. Oui. Ça, la banane, a fait du bien à entendre.
C'est pas toujours compris, là, le sarcasme. Là. Parlez-en à Max, qui utilise beaucoup forme d'humour-là sur les réseaux sociaux.
Les gens nous prennent au pied de la lettre.
Les gens sont vraiment fâchés, mais il y a une évidence de sarcasme, mais les gens, ils perçoivent pas nécessairement tout le temps ce sarcasme-là. Je sais pas c'est dû à quoi. Il faudrait demander à un psychologue là, pourquoi il y a certaines personnes qui sont pas capables de prendre...
Besoin de demander à un psychologue. Beaucoup. Il paraît qu'il y a 50% des gens qui sont analphabètes fonctionnels au Québec.
Je pense que c'est Yannick. Ça.
Ben là, non, mais la compréhension de texte, te souviens-tu au secondaire à quel point on devait lire des textes puis on répondait à des questions pour voir notre niveau de compréhension de texte?
Oui.
Ben, on le voit sur les réseaux sociaux. Il y a 50% de la classe qui coule, là. Voyons! C'est triste à dire, mais on a une problématique au niveau de la compréhension d'un texte moindrement complexe qui s'éloigne d'un titre d'un journal.
Oui, effectivement. Jacinthe Varel, que penses-tu des boissons énergisantes? Est-ce que le gouvernement doit intervenir dans la vente des boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans, selon toi?
Hey, c'est-tu toute une histoire, ça? Non, mais... C'est-tu du niaisage cette semaine? Lâchez-moi ça, tout le monde, toutes les parties. Arrêtez. Parti conservateur, CAQ, arrêtez là. Le Québec flambe de partout, nos écoles tombent en ruine, les hôpitaux, il y a des écureuils dedans qui se promènent, puis il y a du monde qui attend depuis un an, deux ans sur des listes d'attente pour se faire opérer. Puis là, on perd du temps de micro qui coûte cher. Hein? Demander à une station de télévision puis une station de radio de prendre la pub, ça peut coûter cher, là. Puis pendant ce temps-là, on est là qu'on déblatère, on invite des politiciens sur nos ondes pour venir nous défendre si oui ou non on devrait légiférer là-dessus. Ouais. On n'est pas rendu là, pantoute.
Est-ce qu'on peut marcher puis mâcher de la gomme en même temps?
On peut, Yannick, sauf que là, on fait du divertissement.
Pas du tout.
On dévie complètement les... on n'a pas élu...
Moi, là, c'est le combat à chaque semaine avec mon enfant de 10 ans puis mon enfant de 12 ans, chaque fois que je vais dans un dépanneur avec eux, ou encore chaque fois que je vais dans une épicerie, ils ont toujours le goût d'avoir une petite liqueur, une petite boisson énergisante. Puis là, je leur dis, du jus, de l'eau... Non, une petite liqueur, boisson énergisante. Puis quand je jase avec un médecin, les médecins qui se présentent ici, surtout pendant la période des fêtes, on fait des campagnes de financement, on parle justement de l'effet de ces boissons énergisantes-là. Puis ils nous disent, Yann, t'as pas idée à quel point il y a des personnes adultes qui arrivent à l'urgence puis qui ont l'impression qu'ils font une crise de cœur. Puis finalement, bien, c'est des palpitations cardiaques. Puis à long terme, bien, si tu continues d'utiliser ça à forte dose, bien, ça se peut que tu aies besoin d'un pacemaker. Et il nous parle des enfants qui maintenant se ramassent à l'urgence parce qu'ils se sont tapés deux canettes de Red Bull.
Oui.
C'est important d'en jaser, Jacinthe.
Je le sais, il y a un enjeu réel. Sauf qu'en même temps, faisons notre job de parents aussi. Moi, je vois des amis de mes enfants qui arrivent avec des Red Bull à maison, puis j'en reviens pas. Mes enfants ne touchent pas à ça, puis j'ai pas besoin. Mais moi, j'ai pas besoin de dire à mes enfants, je veux pas que vous touchiez à ça. Ils savent que c'est à haute dose de caféine. Tu donnes-tu du café le matin à ton enfant? Non, mais pourquoi tu lui donnerais une Red Bull?
Mais il y a des parents qui font la job de sensibilisation, mais les enfants vont en prendre quand même. En cachette, c'est le cas justement du jeune qui est décédé.
T'as-tu torturé tes enfants, Jacinthe, pour qu'ils prennent pas de boisson énergisante? Je serais curieux de savoir le truc parce que moi, sérieux, ils m'en parlent. Puis à chaque fois, je leur dis, c'est dangereux pour la santé. Puis je le sais qu'à un moment donné, vers 16, 17, 18 ans, ils vont laisser le père puis ses conseils, puis ils vont essayer de faire leur propre test. Mais moi, je pense que le gouvernement doit légiférer, au même titre que les cigarettes, au même titre que l'alcool. Ces boissons-là sont une problématique pour le cœur de nos jeunes. Puis il doit intervenir. La sortie de Maïté Blanchette-Vézina, les réponses qu'elle a données, les comparaisons qu'elle a données, je ne sais pas si tu as vu ça passer.
Ben oui,
là. Elle fait référence à sa mère qui prend des médicaments. Puis ces médicaments interfèrent avec le jus de pamplemousse, puis ça peut être toxique à long terme. C'est complètement cave, là, cette comparaison-là, parce qu'on parle du jeune garçon qui prenait des médicaments pour le TDAH.
Ouais.
Puis qui a pris une seule canette de Red Bull, puis il en est décédé, c'est pas du tout la même chose.
Non, c'est sûr que le jeune était sous l'influence de deux produits qui, en interaction, ont des effets qui peuvent être mortels. Et il faut sensibiliser nos jeunes là-dessus, parce qu'il y en a une méchante gang qui sont survivantes et tous ces médicaments contre le TDAH ou pour le TDAH. Je te dis pas qu'il faut pas légiférer absolument. C'est juste que je trouve qu'on est en ce moment dans une situation où il y a des enjeux fondamentaux, sociétaux fondamentaux, et là, on s'enfarge là-dedans. Oui, il y a eu un rapport de toute façon qui a été déposé
2023.
Au gouvernement dans lequel on recommande d'interdire la vente au moins de 16 ans. Donc, ça aurait dû être fait dès le dépôt du rapport, là. Donc, ça a niaisé pendant 3 ans. Je sais pas trop pourquoi. Donc, moi, j'irai pas à l'encontre de ce rapport-là. Puis, je suis la première à interdire, mais je suis la première à avoir sensibilisé mes enfants à l'effet de faire attention à leur santé. Puis, ils prennent pas de ces produits-là.
T'es une commis de dépanneur. Ben, toi, je sais que tu dirais aux enfants, c'est à qui votre camp, je vous en vends pas. Mais... commis de dépanneur, lui, il faut qu'il s'appuie sur quelque chose pour dire c'est les enfants, je vous en vends pas. Il a peur de perdre sa job. Fait que s'il y a une loi qui peut l'aider là-dedans, c'est...
Je déteste
les lois.
Toi,
les lois sont faites pour les plus imbéciles de notre société. C'est pour ça qu'on met des lois, parce qu'il y en a qui vont rouler à 300 sur l'autoroute. C'est pour ça qu'on met ça à 100. Je déteste les lois. Je suis un peu libertarien dans l'âme. Je suis très autonome. Je suis très fonctionnel, malgré ce que mes anciennes blondes peuvent penser. Je suis célibataire, là, puis je suis capable de vivre. Je
réussis à passer au travers. Mais, je te félicite.
Mais cette loi-là, je la trouve importante pour nos enfants. Puis
ben oui.
C'est peut-être moi qui est trop père poule.
Non, mais beau témoignage sur par texto, Nancy, qui mentionne « Hey, t'sais, je peux pas suivre mon enfant à l'école, puis malheureusement, moi, ça m'est arrivé qu'il en a pris trop de boissons énergisantes sur l'heure du dîner. Puis il est rentré à l'urgence. Donc, je fais quoi? Je l'attache. » Que c'est pour ça que la loi, moi, je suis vraiment en faveur. Puis je trouve pas que c'est anodin. Prendre soin de la santé de nos enfants, contrairement à ce que tu dis, je trouve pas que c'est anodin. Même si on a des problèmes dans le système d'éducation, même si on a des problèmes dans le système de santé, moi, pour moi, la santé des enfants, c'est primordial.
Mais attention, Jean-François, j'ai pas dit que c'est anodin de s'occuper de la santé des enfants. Fais-moi pas dire des choses que j'ai pas dit.
Ben, t'as pas dit ça, non, mais t'as dit pourquoi on s'intéresse à ça maintenant. Ben, moi, je suis content qu'on s'intéresse à ça maintenant.
Le crédit...
t'as peut-être pas dit ça, mais moi, c'est ce que j'ai entendu. T'as le droit de répliquer, là. On est dans un monde libre.
Le crédit, Jacinthe, ils vont le chercher où, au Parti conservateur du Québec, avec cette affirmation de Maïté Blanchette-Vézina?
Ah, ben, demande-moi pas de défendre le Parti conservateur là-dessus.
C'est indéfendable.
Moi-même, c'est parce que depuis le début de cette saga-là, là, qui prend beaucoup trop de place dans les médias, et c'est ça le propos que j'ai ce matin, c'est que ça prend beaucoup trop de place dans le débat, même entre les partis politiques, là, ça prend trop de place. Le rapport a été déposé il y a 3 ans. La CAQ a niaisé là-dessus pendant 3 ans, a dormi. Là, sort à dernière minute. Ça paraît mal. C'est questionnable.
Mais pourquoi
sortir là-dessus là, puis en faire tout un
parce
plat?
Qu'il y a un jeune
c'est
homme
ça
qui
que
décédé.
Je questionne.
C'est parce qu'il y a un jeune homme qui est décédé. Ils veulent passer. Ils veulent être
décédé,
dans le poster.
Mais il est décédé, ça fait longtemps.
Ouais,
là.
Mais c'est un exemple. Ils veulent être dans le poster.
Ouais.
Ils veulent dire voici là, quelle tragédie. Ils vont bénéficier de cette stratégie, de cette tragédie-là pour faire passer leur patente, puis ils vont bien paraître. Mais on va parler avec Éric Duhem tantôt à 8h30. Je ne sais pas trop comment la discussion va aller. Ben honnêtement, je suis totalement en désaccord avec la position du parti. Mais je trouve que la stratégie du Parti conservateur du Québec sur ce dossier-là est catastrophique.
Ouais, ben il contribue à en faire un débat cette semaine. Alors, ce que je dénonce depuis tantôt, de dire on fait un gros cas avec ça, le Parti conservateur, en s'opposant à ça, alimente que ça prenne beaucoup de place dans l'actualité.
Qui, selon toi, contribue plus à faire un débat, le Parti conservateur ou la CAQ? Moi, pour moi, c'est le Parti conservateur. Je serais lié au reste des députés,
puis
ça serait passé.
C'est ce que je viens de dire.
C'est ça.
Trump, Netanyahou, on en est rendu où dans cette relation-là? Est-ce que tu vois une sortie de crise bientôt avec l'Iran? Est-ce que le Liban va peut-être embarquer dans la danse? Ça devient de plus en plus inquiétant, ce dossier-là. Quoique, pour nous autres en Amérique, l'essence commence à diminuer. Là.
Ouais.
On est bien contents, mais n'en demeure pas moins que la guerre continue là, même s'il y a des cessez-le-feu. Toujours bien des missiles qui continuent à se tirer d'un bord et l'autre.
Oui, bien c'est difficile de s'avancer à dire ça se termine bientôt ou ça va se prolonger puis qu'on va encore en parler dans un an. C'est des enjeux tellement complexes et il y a ce qui est dit dans les médias pour faire bouger aussi l'autre partie parce que ce que Washington sort, ce que Israël va sortir, ce que l'Iran sort comme information, je veux dire, ou comme prise de position publique, parfois c'est simplement dans le but de provoquer ou d'afficher un quelconque alignement et il n'y a pas nécessairement les vraies bases de la réflexion réflexion diplomatique qui est fait dans les coulisses, dans les corridors du pouvoir, c'est pas toujours envoyé au grand public. Alors, c'est bien difficile dans le grand public de se faire une opinion très juste puis d'avoir une boule de cristal parce que, justement, on sait que les prises de position sont parfois choquantes pour les autres partis. Hein? Ouais. Washington peut prendre une position troublante ou l'Iran, une position de se montrer très, très fort ou se montrer là, sans pitié alors que, dans les faits, ils sont sur le point de flancher. Mais on ne l'annonce pas qu'on est sur le point de flancher ou on ne l'annonce pas qu'on a des failles. Et même si on connaît les failles de notre adversaire aussi, parce que ce sont des adversaires politiques, les autres partis aussi jouent, les autres parties prenantes jouent aussi une game de pas tout dire.
Netanyahou, es-tu un allié trop stable? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu peux passer des ententes, puis il va embarquer avec toi en te serrant la main, en te regardant des yeux, puis il va les respecter? Hier, je parlais avec un spécialiste de l'international, puis ce qu'il nous mentionnait, puis moi, ma vision là-dedans, dans ce conflit-là, c'est qu'il y a beaucoup trop de religion.
Ouais.
Quand il y a de la religion, c'est irrationnel un peu. Là. Ouais. C'est beaucoup d'histoires aussi de guerre ouais. qui, pour des territoires qui, pour eux, sont super importants. Netanyahou, es-tu trop stable? Parce que le spécialiste me disait, non, il n'y a pas de religion là-dedans, alors que quiconque a déjà lu un livre, ouvert un livre, sait que dans ce coin-là, c'est une poudrière en raison des religions qui sont un peu différentes à certains endroits. Y es-tu trop stable?
Bien, sur la question de la religion, c'est parce qu'il y a des religions qui dépassent le cadre de la religion au sens où nous, comme héritiers de la tradition chrétienne, nous, les héritiers de la tradition chrétienne, dans notre période actuelle, la religion, c'est une case dans notre vie, puis c'est une case souvent dans la vie de nos parents ou de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents. Alors que dans d'autres civilisations, la religion s'incarne par l'identité, par l'histoire, par un mouvement civilisationnel beaucoup plus profond qui vient se servir de la politique pour réaliser les opérations, les visions religieuses qu'ils ont. Alors, c'est imprégné. C'est sûr qu'il y a de la religion là-dedans, mais c'est pas la religion au sens où nous, occidentaux, le concevons, parce que la religion prend une place prépondérante et souvent la politique devient un outil. Donc, en ce sens-là, c'est sûr que c'est tous ces dirigeants-là que je viens de mentionner, dont la religion, l'incarnation de la civilisation s'articule à travers un projet politique. Bien, c'est entendu que c'est beaucoup plus complexe à analyser que oui, non, il est fiable, il n'est pas fiable. Mais de toute façon, je nous ramène à nous, occidentaux, même nos dirigeants qui incarnent pas nécessairement une grande tradition chrétienne, sont-ils fiables? nos dirigeants, est-ce que vous les trouvez fiables? Donc, pourquoi je dirais que des dirigeants d'autres pays sont nécessairement fiables? Ben non, on fait de la politique. Et quand on fait de la politique, ben on a nos électeurs, nos alliés. On a aussi les pressions des groupes plus extrémistes dans notre parti. Benjamin Netanyahou, il est soumis à une panoplie de pressions extérieures, mais il y a des pressions aussi à l'intérieur même de son gouvernement, à l'intérieur même de son mouvement. De ses forces de soutien. Alors ça fait en sorte que, ben oui, il peut dire bleu dans une foule, servir de bord, puis dire on va faire mal.
Ouais. Ça doit dater de 2-3 ans, cette entrevue-là, mais Patrick Lagacé avait fait une entrevue avec un général des communications dans l'armée israélienne quand il y a eu justement le Hamas là, qui était entré en Israël, qui avait fait énormément de dégâts, kidnappé des gens, tué des gens. Patrick Lagacé parlait des dommages collatéraux. Puis le général des communications israélien a pété un plomb et a dit « Vous avez aucune idée de la réalité dans laquelle nous ouais. sommes. » Eux, de leur côté, ça semble être œil pour œil, dent pour dent. Et si tu viens chercher les miens, sache que je vais aller chercher les tiens ouais. aussi. C'est pas la même façon de voir les choses que nous en Occident. Non. Moi, je suis ici, c'est sûr que je vais penser aux dommages collatéraux qu'il y a des autres pays, les femmes, les enfants, les immeubles qui s'écroulent sur eux, des gens qui sont plus capables d'avoir accès à de l'eau potable. Mais pour eux, c'est une survie. Puis la raison pour laquelle Israël est encore debout, c'est qu'ils ont toujours agi comme ça.
Ouais.
vous nous attaquez, ben on va aller vous intimider, peu importe le coût que ça va coûter.
Selon toi, est-ce que la réplique d'Israël est trop importante? T'sais, je regarde, moi je trouve que c'est très important. Il y a eu au-dessus de 50 000 civils morts dans la bande de Gaza. Présentement, on est encore à affamer cette population-là. Énormément d'attaques au Liban à l'heure actuelle qui touchent des bâtiments de civils. Je comprends qu'on se défend, mais je trouve que la réplique est exagéré par rapport à ce qu'on vit. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ben, je pense qu'à partir du Québec, c'est bien difficile de bien comprendre la situation. Et c'est facile de tomber dans le piège de dire, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Mais tu sais, moi, j'ai pas grandi sous les bombes. J'ai pas grandi en ouvrant le robinet puis il n'y a plus d'eau, puis je sais pas pour combien de temps, puis que le frigidaire, l'électricité ne rentre plus. J'ai pas grandi non plus en ayant peur que mes sœurs se fassent kidnapper, violer, torturer. Donc, tu sais, il y a des monstruosités puis des atrocités qui se vivent dans ces pays-là qui dépassent l'entendement et qui génèrent, je pense, de la haine générationnelle. Donc, si tu sais que ta mère s'est fait assassiner puis avant son assassinat, elle s'est fait violer devant son propre fils, tu sais, il y a des tortures, il y a des sévices humains qui sont vécus par ces gens-là.
Ils vont grandir dans la haine puis ils vont avoir soif de vengeance.
Ben absolument, en effet. Absolument. Donc, c'est difficile pour moi ici de condamner ça puis de dire, ben voyons donc, là, il exagère. c'est la première chose de base qu'on apprend quand on veut que notre couple se passe bien. Là. Puis là, je la ramène au niveau du couple, mais c'est ça, pareil. Quand ton partenaire de vie dit « je suis outré de ça » ou « je suis blessé de ça », la première chose à ne pas faire, c'est de dire « ben voyons donc, t'exagères. Non, non. Pourquoi t'es blessé? Pourquoi t'es outré? » Moi, je peux bien trouver de ma perspective que tu t'en fais un gros plat pour rien, là, mais l'important, c'est ce que la personne vient de vivre. Donc, ces gens-là vivent des choses de part et d'autre, dans tous ces pays-là, de part et d'autre. Donc, c'est bien difficile de condamner. Je pense qu'il y a beaucoup de nuances à apporter. Puis surtout, moi, je me rappelle toujours, je me ramène toujours à... Il y a une haine civilisationnelle, un désir de vengeance intergénérationnelle qui se passe de génération en génération. Puis quand tu as grandi en voyant des atrocités, bien, tu peux pas faire autrement que vouloir te revenger sur ce peuple-là, vouloir être méfiant ou vouloir t'en débarrasser même. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens de notre perspective. Je suis bien d'accord, puis d'un point de vue humain non plus. Mais je pense que c'est là-dedans que tout le monde vit là-bas, où une grande portion de la population vit.
Jacinthe Varel, on se reparle vendredi prochain.
Oui.
C'est toujours un plaisir.
Semaine.
Max, salut. Sur la route, ça roule.
C'est tout?
Ben, je vais pas inventer des affaires, ça va bien, on est content.
Si vous voyez des choses que Max ne voit pas, parce qu'il a pris peut-être un peu trop de coupons de la part de son chum Marceau hier à la Voix Maltais. Quel bel endroit en passant. Merci beaucoup de l'accueil. C'était super sympathique. Ben, contactez-nous, 418-971-1021. Vous êtes nos yeux, nos oreilles sur la route. C'est par texto.
Boulevard 102.1.
Mauvaine, des produits de qualité à prix de liquidation. Des nouveautés chaque semaine. Québec, Saint-Georges, Lévis et chapeauben.com. Chapeauben, des marchands de bonheur.
Alors que vous partiez en vacances en Estrie, vous faites une crevaison.
Oh!
Vos vacances commencent mal.
Oui.
Vous n'êtes pas en Estrie.
Non.
Mais vous êtes en...
Oui, oui, c'est beau, on a compris.
Mais comme vous êtes membre CAA, vous bénéficiez de l'assistance routière même dans la pire situation.
Génial!